La matinale d'Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Il est 4h57 et il fait déjà très très chaud. 27 degrés sur mon thermomètre. J'espère que vous avez tous un ventilateur braqué sur votre couette. Allez, on va se rafraîchir les idées jusqu'à 9h. Écoutez ce monde qui change dans la joie et la bonne humeur. Un café, un brumisateur et un peu de musique. Tiens, le 25 juin, c'est la Saint-Prosper.
Prosper, yop, la boum, c'est le chéri de ses dames. Prosper, yop, la boum, c'est le roi du macadam. Comme il a toujours la flemme, il fait jamais rien lui-même, il a son harem. J'y de Clichy à Barbès, le jour et la nuit sans cesse, fait son petit business.
Maurice Chevalier, Prosper Yop Laboum. Bonjour Amblin Roche.
Bonjour, quelle modernité.
La musique continue dans votre partition à 6h moins 10, oui. Hein, j'allais dire 9h moins 10, mais non. Sauf que là, ce sera autre salle, autre ambiance. Oui. Mouillons-nous la nuque, comme dirait Mathieu Béliard.
Oh bah c'est moderne aussi. L'un des plus gros phénomènes dans l'histoire de la musique internationale, c'est la combinaison parfaite, à mon sens, du talent et du travail, la formidable saga familiale des Jackson 5, avec sur le devant de la scène celui qui éblouit toujours. Bonjour, bien sûr, Michael Jackson, juste 11 ans.
Les Jackson 5 et Michael Jackson, racontés par Amblin Roche, ce sera dans 50 petites minutes sur Europe 1. Au menu de vos autres rendez-vous, l'interview actuelle à 5h40. On va s'intéresser à un rapport rendu cette semaine par un député de la majorité. 121 propositions pour lutter contre les abandons d'animaux de compagnie. Nous sommes les champions d'Europe en la matière. Parmi les mesures suggérées, la mise en place d'une attestation de connaissance, un questionnaire qu'il faudrait remplir avant tout achat d'animal. Est-ce suffisant ? Je poserai la question à 5h40 à mon invité Réa Hutin, la présidente de la fondation 30 millions d'amis. À 5h25, les doigts dans l'assiette, on va aller humer les bons fromages de chèvre de Bruno, notre éleveur vosgien. Et puis à 5h15, le pressing, les articles les plus insolites à lire ce matin dans la presse. Au programme, une consultation populaire pour une consommation plus responsable, une calèche pour aller à l'école et 60 nouvelles idées pour voir le monde autrement. La météo de ce jeudi 25 juin, c'est avec Laurent Cabrol. Bonjour Laurent.
Eh bien bonjour à tous et bonjour Julien et Omblin. C'est une journée ensoleillée, en tout cas une matinée ensoleillée, pratiquement partout, avec une tendance orageuse qui va se dessiner beaucoup plus rapidement que prévu d'ailleurs sur l'ensemble des côtes atlantiques, puis même à l'intérieur des terres, sur la vallée de la Loire, il y en aura aussi sur le Limousin, et bref, bon, des orages commencent à arriver, et cela va jouer un petit peu sur les températures. Oh, pas partout, hein, parce qu'à Paris, il fera 35 degrés cet après-midi, c'est vous dire, 34 degrés à Mâcon et 33 à Clermont-Ferrand, 25 à Montpellier pour les moins élevés.
Merci Laurent Cabrol. Le 5-6, c'est parti, écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 5h.
J'étais avant un grand scientifique et je suis resté un grand scientifique après avoir publié ça.
La bave du crapaud n'atteint pas sa blouse blanche. Questionné par les députés, le professeur Didier Raoult persiste et signe. L'hydroxychloroquine reste le meilleur traitement contre le Covid.
Maintenant qu'on en a, on ne les utilise pas. Il faut tester plus et plus vite. Alerte des spécialistes inquiets d'une possible deuxième vague.
Si vous avez des cas asymptomatiques qui en contaminent d'autres, ça peut faire boule de neige jusqu'à ce qu'il y ait un cas symptomatique. À ce moment-là, on va s'en apercevoir. Ça va très vite.
Dans ce journal également, 6 milliards mis sur la table du Ségur de la Santé.
Le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée.
Et puis une attestation obligatoire pour adopter un animal de compagnie.
Ça permettra d'imprimer dans la tête de celui qui va acquérir 3-4 idées absolument importantes qui vont lui permettre de faire en sorte que le mariage avec un animal de compagnie se passe bien.
Proposition d'un député pour diminuer le nombre d'abandons qui ne cesse d'augmenter. 5h01 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il a pris la solution offensive. Pendant plus de 3 heures hier, le professeur Didier Raoult a répondu aux questions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le Covid. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le célèbre infectiologue, apôtre de l'hydroxychloroquine, n'a pas mâché ses mots. Ève Roger.
Sur l'hydroxychloroquine, Didier Raoult confirme, c'est le meilleur traitement. D'ailleurs, le temps fera le tri, a-t-il dit, entre les études pour et les études contre. Il s'est simplement étonné, un peu flatté, d'être à l'origine d'une polémique mondiale.
Je ne connais pas Trump et je ne connais pas Bolton. C'est pas moi qui leur ai dit d'utiliser la chloroquine.
En revanche, c'est bien lui qui a multiplié tout de suite les tests à Marseille. C'était la bonne stratégie et il l'a dit à qui de droit.
C'est moi qui ai expliqué, au président pour la première fois. Vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut la faire.
Alors au député qui lui demande pourquoi il a quitté le conseil scientifique qui aura peut-être besoin de ses conseils, il répond qu'il s'y sentait comme un extraterrestre. Et puis surtout, il accuse violemment l'équipe de Jean-François Delfraissy de conflit d'intérêts avec un laboratoire pharmaceutique.
Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19.
Accusation grave, a souligné le rapporteur Éric Ciotti qui a promis d'y revenir. Mais il a fallu attendre la toute dernière question pour que Didier Raoult s'énerve quand il lui est reproché de ne pas avoir testé l'hydroxychloroquine avec un groupe témoin.
J'étais avant un grand scientifique et je suis resté un grand scientifique après avoir publié ça.
Attaqué à plusieurs reprises, le conseil scientifique que nous avons contacté s'est refusé à tout commentaire.
Après en avoir cruellement manqué pendant des semaines, la France a désormais des dizaines de milliers de tests disponibles.
Encore faut-il les utiliser. 30 000 tests sont effectués par jour aujourd'hui en France. Or, début juin, le Conseil scientifique recommandait d'en pratiquer 50 000 quotidiennement pour contrôler complètement l'épidémie. Alors, teste-t-on suffisamment ? Pauline Jacquot a posé la question à plusieurs spécialistes.
Des centaines de milliers de personnes atteintes du coronavirus échappent aujourd'hui au radar. C'est la grande faille de la stratégie française en ce moment, selon certains spécialistes. Il faut absolument tester, comme en Allemagne, en Corée du Sud, à Taïwan, à très grande échelle, dans les villes, dans les rues, et ne pas laisser des malades passer entre les mailles du filet, selon l'épidémiologiste Catherine Hill.
Si on avait testé comme les Allemands, on aurait eu 640 000 cas. Ça vous fait 450 000 personnes qui ont échappé au système. Et là-dedans, il y a des asymptomatiques. Si vous avez des cas asymptomatiques, assez contaminants, qui en contaminent d'autres, ça peut faire boule de neige jusqu'à ce qu'il y ait un cas symptomatique. Et à ce moment-là, on va s'en apercevoir. Ça va très vite. En 10 jours, l'essentiel des contaminations, c'est fini. Donc il faut trouver les cas vite, les isoler vite, trouver les contacts vite.
C'est uniquement à cette condition, selon elle, que l'épidémie sera contrôlée en France. Il faudrait déjà, souligne le professeur Bruno Lina, membre du conseil scientifique, que toutes les personnes qui présentent des symptômes du coronavirus aillent se faire tester. Ce qui n'est, dit-il, pas le cas aujourd'hui.
Europe 1, il est 5h04.
Le ministre de la Santé a dévoilé hier l'enveloppe prévue pour les hausses de salaire des soignants. Olivier Véran a mis 6 milliards d'euros sur la table des négociations du Ségur de la Santé.
Une somme à partager entre les hôpitaux, les EHPAD publics et une partie du secteur privé.
Et c'est bien ce qui inquiète Zeina Brier, déléguée générale de la Fédération hospitalière.
On peut saluer cette enveloppe. Il faut néanmoins rappeler que ces 6 milliards, pour nous, correspondent aux besoins de financement pour les établissements public. Or, nous avons appris que le périmètre de cette enveloppe concernait à la fois le secteur privé et le secteur public. Donc, ça fera moins de sous pour le secteur public. Les négociations vont démarrer. On va voir avec le ministère quelle sera effectivement la répartition entre le salaire de base, quelles catégories professionnelles vont être revalorisées et puis qu'est-ce qui va en être de l'intéressement collectif. C'est une occasion historique, ce Ségur de la Santé. Nous souhaitons être totalement confiants pour avancer de façon totalement constructive.
La déléguée générale de la Fédération hospitalière au micro européen de Romain Oquet.
Ça y est, après plusieurs heures d'échanges hier après-midi à l'Élysée, les partenaires sociaux connaissent les contours précis du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Dispositif qui doit permettre aux entreprises victimes d'un trou de garder leurs salariés en maintenant plus de 80% de leur rémunération pendant une période qui peut aller jusqu'à 2 ans. Le système sera effectif le 1er juillet et nécessitera la négociation d'un accord au sein des entreprises. Olivier Samin.
L'élément clé du dispositif, c'est l'accord qui devra être conclu avec les syndicats. Sans cet accord, pas d'aide de l'État à l'entreprise qui est confrontée à un trou d'air et qui veut garder ses salariés dans l'optique du rebond de son activité dans un délai de 6 mois à 2 ans. Cet accord, il devra fixer des engagements en termes d'emploi. Mais attention, pas nécessairement le maintien de tous les emplois. Il pourra y avoir un plan de départ volontaire, voire des licenciements, si les syndicats, rejoignant la direction, conviennent que c'est nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est un pari sur le dialogue social, dit l'entourage d'Emmanuel Macron. Une fois l'accord conclu, et à condition que la baisse d'activité reste contenue en dessous de 40%, l'entreprise maintiendra la rémunération de ses salariés au même niveau que ce qui est prévu dans le chômage partiel actuel. Autrement dit, 100% du salaire net pour ceux qui sont payés au SMIC et 84% pour ceux qui gagnent plus que le SMIC. Et il suffira ensuite à l'entreprise de se faire rembourser par l'État à hauteur de 80% les sommes qu'elle aura dépensées, et même 85% si l'accord est conclu avant le 1er octobre prochain.
Les précisions d'Olivier Samin.
J-3 avant le second tour des élections municipales, direction Lyon, où se forme un front anti-écolo.
Et pour cause, le vert Grégory Doucet est arrivé en tête au premier tour avec 28% des voix. Son alliance de la gauche inquiète le poulain de Gérard Collomb, l'ancien gymnaste Yann Cuchera, allié aux Républicains.
Nous ne souhaitons pas que cette ville tombe dans les mains des Verts et de la France insoumise. On voit bien que depuis quelques semaines, le monde de l'entreprise, ils sont inquiets que cette ville puisse être en rupture avec sa trajectoire initiale. Je ne veux pas être dans une rupture où la ville de Lyon deviendrait un laboratoire expérimental qui, selon moi, irait dans le sens du repli, de la régression et qui n'irait pas dans le sens de l'histoire de cette ville de Lyon.
Autre candidat au second tour à Lyon, le dissident En Marche, Georges Képénékian, l'ancien adjoint à la culture de Gérard Collomb, estime lui aussi qu'une victoire des Verts ferait du tort à la capitale des Gaules.
Je crois qu'il y a une manière de penser l'écologie. On a compris qu'il y avait un vrai problème. La question, vous voyez, c'est plutôt convaincre que contraindre. Il faut sûrement des éléments structurants. Mais prendre en charge, c'est pas seulement d'expliquer à quelqu'un que si on le sauve pas là dans la semaine, c'est cuit pour lui. Non. Je crains qu'il y ait derrière une volonté affirmée, peut-être une capacité à aller trop loin, trop vite.
Ils sont trop dogmatiques peut-être aussi.
Oui, ils sont radicaux, oui.
Georges Képénékian au micro européen de Jean-Luc Bougeon.
Emmanuel Macron est-il intervenu dans une enquête judiciaire visant son bras droit ? Le président a rédigé un courrier pour prendre la défense d'Alexis Kohler.
Le secrétaire général de l'Élysée est soupçonné de conflit d'intérêts, accusé d'avoir dissimulé ses liens familiaux avec l'armateur MSC alors qu'il exerçait des fonctions au ministère de l'Économie.
Les juges d'instruction reprennent les investigations. Une information judiciaire a été ouverte après une première enquête classée sans suite.
L'Élysée refute toute pression, mais quel rôle a vraiment joué ce courrier ? C'est la question que pose l'association anti corps à l'origine de la plainte initiale. Sa présidente, Élise Van Beneden.
C'est normal que M. Kohler organise sa défense. Ce qui interroge, c'est que cette attestation, ce courrier, est arrivé à la fin de l'enquête préliminaire, après un an d'enquête, alors que dans l'enquête préliminaire, il y avait déjà des attestations. Donc la question, c'est est-ce que cette lettre de M. Macron a changé la donne, a changé les conclusions de l'enquête, si elle les a changées ? Est-ce qu'elle les a changées parce qu'elle a apporté un nouvel éclairage ? Ou est-ce que les faits qui sont attestés par cette lettre étaient déjà présents au dossier ? Et du coup, est-ce que cette intervention était d'une autre nature ? D'une nature qui est susceptible de remettre en cause la séparation des pouvoirs.
La présidente d'Anticor jointe pour Europe 1 par Salomé Legrand.
Un député de la majorité a remis au gouvernement cette semaine 121 propositions pour lutter contre l'abandon d'animaux domestiques.
C'est presque un sport national, surtout à l'approche des grandes vacances. Plus de 100 000 animaux sont abandonnés chaque année en France, record d'Europe.
Un titre dont on se passerait bien. Alors pour mettre fin à ce fléau, le rapport préconise notamment la mise en place d'une attestation obligatoire pour adopter un chien ou un chat. Justin Morin.
Ce n'est pas un énième permis, promet Loïc Dombreval, député La République En Marche à l'origine du rapport. D'ailleurs, ce sera gratuit.
C'est une attestation de connaissance, ça va être un quiz, ça doit être ludique, ça doit être fait de façon simple. Mais ça permettra d'imprimer dans la tête de celui qui va acquérir 3-4 idées absolument importantes qui vont lui permettre de faire en sorte que le mariage avec un animal de compagnie se passe bien.
Il faut aussi arrêter les achats compulsifs d'un chiot ou d'un chaton, parfois sous la pression des enfants. Et ce n'est pas caricatural, assurent les associations de défense des animaux. Fini donc les ventes en animalerie, dans les foires expo ou sur Internet. L'acquisition se ferait uniquement chez un éleveur ou dans un refuge. Autre mesure phare, la création d'un défenseur des droits ou d'un secrétariat dédié à la condition animale, ce que réclame la SPA depuis très longtemps, son président Jean-Charles Fonbonne.
Ça veut dire que l'idée est en train de germer, ça veut dire que le regard de la société sur la condition animale est complètement différent de celle qu'avait la génération qui nous a précédés. Maintenant, il faut que le politique retrousse ses manches.
Les associations globalement satisfaites attendent désormais la retranscription de ces mesures dans le plan 2020-2025 du bien-être animal prévu pour la fin de l'année.
Et à ce sujet, notez que je recevrai à 5h40 Réa Hutin, la présidente de la fondation 30 millions d'amis.
Europe 1, il est 5h11.
On passe aux courses hippiques avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, il y aura des courses sur l'hippodrome de Longchamp et mon pari gagnant sera le 102 Telecaster. Il nous arrive d'Angleterre, précédé d'une flatteuse réputation, et pour sa première tentative en France, il possède à l'évidence la première chance de cette confrontation d'un très bon niveau, dont le départ sera donné à 9h40 en raison des fortes chaleurs. Associé au crack jockey Christophe Soumillon et dépendant de l'un des entraînements les plus sérieux d'outre-Manche, celui d'Huggy Morinson, ce cheval d'avenir ne devrait avoir aucune difficulté à s'imposer. Notez bien, pour Longchamp, réunion 1, dans la première course, le numéro 2, Télécaster.
Télécaster, comme la guitare. Merci Thierry Léger. À tout à l'heure pour vos pronostics du Quintet.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. L'équipe du Pressing va vous raconter les articles les plus insolites et passionnants à lire ce matin dans vos journaux. Très bon réveil à tous.
Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
5h13, le Pressing ouvre ses portes. La revue de presse la plus déjantée du PAF, racontée par des gens qui ont du pif. Omblin Roche et Paul Lassen qui nous a rejoint. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Très bien.
Bon,
on est vendredi.
Presque. Non, on est bien jeudi. On commence avec vous, ma chère Omblin. Quel article avez-vous repéré?
Je voulais vous parler de la ville de Saint-Selve en Gironde qui a lancé en début de semaine un hippobus des enfants qui vont à l'école en calèche tiré par deux chevaux. Non, presque. Hippo, ouais. C'est West France qui vous raconte cette belle histoire. Mais, pardon, j'ai tapé sur la table, je suis tombée sur ce portrait passionnant consacré à Hattie McDaniel dans Paris Match. Nous sommes deux semaines après la polémique dans laquelle s'est retrouvé le livre et le film Autant n'emporte le vent. Coup de projecteur sur cette comédienne, la première actrice noire, premier acteur noir en général à recevoir un Oscar à Hollywood en 1940 pour son rôle de l'esclave attendrissante, Nounou, la Nounou Mamie.
Oh, je vous ai dit et redit que pour avoir l'air d'une jeune fille convenable, il fallait manger en public comme un petit oiseau. Et moi, je tiens pas à ce que vous alliez chez Monsieur Jonesville pour vous tenir comme une fille de ferme et vous gaver comme un goy.
Tratata. Elle a rédigé un discours ce soir-là quand elle a reçu son Oscar. Elle ne lit pas Hattie McDaniel, pardon. Elle dit juste que ce trophée va illuminer sa vie. Mais cet Oscar ne lui fera pas oublier d'où elle vient. Hattie McDaniel est ensuite exfiltrée après avoir reçu ce trophée. Elle est exfiltrée sur scène et elle passe par les cuisines de l'hôtel Ambassador à Los Angeles où se tient la cérémonie. Dans les rues, les sudistes crient leur colère. Les parents d'Hattie McDaniel sont nés esclaves dans le Kansas. Son père devient pasteur et il épouse une chanteuse de gospel. Elle chante, Hattie aussi, elle joue la comédie. Pendant la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30, elle est dame pipi et elle se bat pour monter sur scène, domestique dans la vie et à l'écran. Hattie McDaniel explique « Je préfère jouer les servantes à $700 par semaine » qu'en être une pour 7. Elle croise les chemins de Clark Gable et Olivia de Havilland, futurs héros d'Autant n'emporte le vent. Ils insisteront pour que ce soit elle qui incarne Mamie. La concurrence est rude. La première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt, voulait que ce soit sa cuisinière. Les acteurs du film ne vont rien lâcher également pour que la comédienne dispose de sa loge personnelle. Avec son cachet, elle s'offre une jolie maison à Los Angeles. Alors, Hattie McDaniel a connu la ségrégation et la violence de ses voisins blancs toute sa vie et même après, avant de décéder en 1948 d'un cancer du sein, elle avait demandé à être enterrée dans le cimetière d'Hollywood, ce qui lui sera refusé. Les morts aussi ont une couleur de peau. Voilà ce portrait de l'inoubliable attachante Hattie McDaniel dans Paris Match. Dès aujourd'hui, un parcours à ne pas oublier. Il y a plein d'autres histoires, l'article est long. C'est vraiment très intéressant.
Ça a l'air passionnant et triste. Également,
voilà,
ça raconte
il faut le retenir.
Une certaine histoire de l'Amérique.
C'est ça, il ne faut pas oublier.
Merci Omblin Roche. Paul Lassen, à vous.
Une info dévoilée par Aujourd'hui en France ce matin. C'est l'une des convictions du gouvernement. La relance de l'économie se fera aussi et surtout par la consommation. Une idée que partage visiblement l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui a décidé de travailler sur une proposition de loi pour relancer la consommation des ménages. Tout ça via une consommation plus verte, plus responsable. Alors aujourd'hui même, l'association lance une grande consultation populaire sur son site. Elle va soumettre aux citoyens 17 propositions réunies en 7 grands thèmes que chacun pourra classer par ordre de priorité et choisir celle à soumettre au Parlement à l'automne quand UFC Que Choisir aura lancé sa proposition de loi.
Et quelles mesures sont soumises à consultation ?
Alors celle dont on parle le plus, c'est ce qu'on appelle le prix vert, un prix qui reflèterait le vrai coût environnemental de notre consommation, le coût de fabrication, le coût de transport, le coût d'utilisation et le coût de recyclage. Donc le prix vert ou prix plus juste, pour UFC Que Choisir, là-dessus il faut accepter de payer plus. On parle aussi de l'obligation d'un Nutri-Score européen. Alors, le Nutri-Score, c'est sur les emballages de ce que vous achetez, vous avez 5 lettres A, B, C, D, E. Mmh. C'est pour savoir si vous mangez un bon produit ou pas, A étant le meilleur, E le moins bon. L'allongement légal de conformité selon les produits. Par exemple, UFC Que Choisir imagine imposer une durée de garantie de 5 ans pour les lave-linges. Pourquoi ? Eh bien pour obliger les constructeurs à penser à l'obsolescence programmée quand ils fabriquent leurs objets. Un droit opposable à un Internet de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la 5G, de l'installation de la 5G en France. quand certaines personnes habitent dans des zones blanches et n'ont même pas encore accès à la 3G ou à la fibre optique pour parler d'Internet. On nous parle aussi dans cet article de la mise en place d'une carte des circuits courts existants avec pour idée favoriser l'achat local.
Il y a beaucoup de circuits courts, mais encore faut-il les trouver, voilà, faut-il les connaître.
Il faut savoir où aller acheter. Enfin, un des autres exemples, c'est la suspension temporaire des remboursements de crédits, notamment immobiliers, et le plafonnement des frais d'incident bancaire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont arrêté de travailler, ont gagné moins d'argent, voire pas du tout. Voilà, le but, c'est de ne pas les étouffer financièrement. Ça doit être soumis à proposition également aux Français. Donc, une fois les consultations, toutes ces consultations terminées, UFC Que Choisir déterminera les meilleurs à soumettre dans un projet de loi qu'elle présentera au Parlement à l'automne.
Et donc, on peut voter, j'imagine, voilà, sur le site de l'UFC Que Choisir.
À partir d'aujourd'hui.
Merci absolument. Beaucoup, Paul Lassène, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France. J'ai choisi pour ma part un dossier passionnant à lire dans le magazine Science et Vie, dont le dernier numéro est sorti hier. 60 nouvelles idées pour voir le monde autrement. Il s'agit d'une compilation d'hypothèses de recherche, d'études scientifiques en cours. Rien de tout ce que je vais vous raconter n'a encore été formellement prouvé, mais les premiers résultats de ces travaux sont suffisamment, on va dire, crédibles pour nous permettre de rêver. Omblin, Paul, est-ce que vous avez la main verte ?
Pas du tout, mais vraiment pas.
Et moi, je le suis devenu. Mais par la force des choses, parce qu'à un moment donné, j'en avais marre de voir mes plantes mourir.
Eh bien, heureusement que vous ne pouvez pas les entendre, sinon vous auriez des acouphènes. Oui, les plantes pousseraient des cris. Alors non, ça c'est Omblin qui découvre le matin avec effroi que le périph' est fermé. Les plantes, elles, sont plus subtiles. En plaçant des micros à 10 cm de plantes tomates installées dans une pièce insonorisée, des chercheurs ont perçu très nettement une série d'ultrasons, des petits cris qui se multiplient lorsque la plante manque d'eau ou qu'elle est sectionnée.
Ah, c'est des cris de douleur donc ?
Potentiellement. Oui. Mieux, après, oui. Les plantes seraient aussi capables d'entendre. Une étude australienne montre que les racines des petits pois sont attirées par le bruit de l'eau qui s'écoule. Ouvrez donc grand vos oreilles lorsque vous jardinez. Autre idée reliée par Science et Vie, nos mains auraient été modelées pour boxer. Alors jusque-là, on pensait que la main humaine avait été taillée pour son habileté à façonner et manier des outils. Eh bien, une nouvelle hypothèse est en train de surgir. Notre espèce aurait évolué en sélectionnant les individus sachant se battre. Le poing développant une force deux fois plus importante qu'une main ouverte, nos mains se seraient peu à peu transformées pour nous permettre de replier nos doigts dans nos paumes.
Je ne vous colle pas mon poing sur la gueule, je pense que ce n'est pas la peine.
Non, ce n'est pas la peine.
Pas la peine non plus de courir dans tous les sens, vu que les espèces les plus fainéantes survivent bien mieux que les hyperactives. C'est la découverte qu'ont faite des scientifiques en analysant le métabolisme de 300 espèces de mollusques actuelles ou disparues. Résultat, l'évolution favorise les paresseux et cela vaudrait tout aussi bien pour nous autres humains. Les êtres peu actifs ont moins besoin de nourriture, moins besoin d'énergie. Ils traversent donc mieux les crises. Le proverbe « qui va doucement va sûrement, qui va piano va sano » dans sa langue originale serait donc en passe d'être prouvé scientifiquement. Voilà, ça a l'air d'être passionnant tout ce que je raconte, mon cher Paul. C'est fini le pressing pour aujourd'hui. Merci Paul Lassène. Dans un instant, c'est les doigts dans l'assiette. On va aller à la Bresse, dans les Vosges, retrouver Bruno, notre éleveur de chèvres.
Enregistré en plein confinement au cœur de la capitale, Mélodie Gardot avait lancé un appel aux musiciens du monde entier. Chacune, chacun ont enregistré chez eux leur piste avant de l'envoyer à la chanteuse et à son équipe. Voici donc un morceau participatif pour l'association Protège ton soignant, Mélodie Gardot, From Paris with Love.
Lovers tucked into a quiet cafe, sat beneath a shade of red. They fall in love like falling out of bed. Half a silhouette of passerbys, have a glass within my hand. Drink to life as if there is no end. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon. With love, my love, a kiss beneath the moon.
both awaken to the morning light. Laser boats around the bend. Shimmers once or twice to move this pen. Beauty fades before the mirror's rim. Beauty knocks upon your door. Life is leading us to something more. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon. With love, my love, a kiss beneath the
Mélodie Gardot avec From Paris with Love. Tous les bénéfices de ce single seront reversés à l'association Protège ton soignant. Premier extrait d'un prochain album que la chanteuse de Philadelphie installée à Paris est en train de préparer. 5h24, les doigts dans l'assiette sur Europe 1, le quotidien de ceux qui nous font manger.
Bonjour Bruno Lecomte.
Oui, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin Bruno. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes éleveur de chèvres à la Bresse dans les Vosges. Comment allez-vous ?
Ah, ça va très bien. Là, je suis dehors, j'apprécie. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas sentir, vous ne pouvez pas entendre, mais en fait, on fait des foins en ce moment. Donc, on a une odeur de foin dans la montagne qui est agréable, parce que tout le monde fauche, en fait. Il n'y a pas que moi, c'est tous les éleveurs, tous les paysans.
Oui.
Et c'est vraiment sympathique de sentir cette odeur de foin, qui est vraiment caractéristique. Hein. C'est seulement en ce moment, quoi. Puis, c'est sympa, parce qu'on entend les hirondelles. Voilà, c'est un beau paysage, en fait, qui est devant moi. Il fait jour, là. Et donc vous pouvez pas voir, mais on a un magnifique paysage. Et puis on a installé une terrasse panoramique justement pour les gens.
Ah oui.
Pour le déconfinement, on a fait de la place pour que les gens soient pas trop l'un sur l'autre quand ils viennent visiter. Donc on a fait une très grande terrasse panoramique pour les gens qui profitent de la vallée, qui profitent de la montagne.
Les gens qui viennent visiter votre ferme, où ils peuvent également acheter vos fromages. Est-ce que les affaires reprennent ?
Oui, on voit les gens qui commencent à revenir, ça fait plaisir. Hein. Le déconfinement, ça se fait tout doucement, qu'on va dire. Les Belges, les Luxembourgeois, les Allemands, tout ça. Enfin, pas les Allemands, on n'en voit pas trop, mais les Belges, on en voit beaucoup là maintenant.
Oui.
Et puis, ils profitent de la montagne. Y a plein, on a beaucoup de monde, et ça fait plaisir, quoi.
Bon, et vous nous aviez raconté il y a quelques semaines que pendant le confinement et les semaines qui ont suivi, vous aviez mis en place un système de vente en ligne avec livraison à domicile. Est-ce que ça marche encore ? Ce système
oui.
Est toujours en place ?
Oui, c'est le système Cagette hein, de vente en ligne. Donc, on a deux points de vente, deux, trois points de vente comme ça qu'on organise. Et on va le généraliser sur le site internet. On n'a pas finalisé encore sur le site internet la vente en ligne, mais le système Cagette, on en est très content. C'est un système de vente en ligne que les producteurs peuvent mettre en place chez eux.
Et qui vous a permis de tenir pendant ces quelques semaines difficiles.
Ben, on a 200-300 fromages par jour et c'est pas avec que la vente en ligne qu'on peut assurer la vente de tous nos fromages. Donc c'est vrai qu'on
ça limite la casse.
Stocké. Voilà, on a stocké beaucoup de fromages en faisant de la tome de chèvre qu'on va vendre cet été.
Alors
voilà,
justement, donc. Parlez-nous de vos fromages. Vous en avez combien de sortes ? Vous en produisez combien de sortes ?
7 sortes, en fait. C'est une déclinaison du frais, hein. Frais, demi-affiné, affiné. Puis on en fait quelques-uns avec des aromates, des échalotes, poivrons, herbes.
Mm.
On pourra en faire beaucoup plus. On pourra faire des pâtes molles. On va peut-être faire un peu de fromage blanc aussi pour cet été, là. En fait, avec du lait, c'est fantastique. On peut faire quand même beaucoup de fromage. Je vous rappelle qu'en France, avec un seul type de lait, le lait de vache, on arrive à plus de 300 fromages, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a un produit qu'on peut travailler sur plein de formes. Mais c'est un manque de temps, un manque de place. On ne peut pas faire tous les fromages.
Oui, et vous n'avez que deux bras aussi, accessoirement. Ouais. Enfin, aux dernières nouvelles, on n'est pas là pour le voir, mais je l'imagine fortement. Vos chèvres, comment vont-elles avec ces fortes chaleurs ?
Eh ben, il fait peut-être chaud, très très chaud, peut-être à Paris, en montagne, c'est toujours relatif. Il fait chaud, mais il fait toujours moins chaud qu'en plaine.
Bien sûr.
C'est vrai que ça, c'est quand même agréable pour ça, quoi. Les chèvres se portent bien, elles apprécient le chaud modéré, qu'on va dire. Le lait, il a tendance même à monter en production quand il fait chaud. Et dès qu'on a un petit coup de froid, le mauvais temps qui revient des fois de quelques jours, et ben tout de suite le lait baisse parce que les chèvres elles apprécient le beau temps, elles apprécient la bonne herbe dehors. Ici il pleut, elles n'aiment pas la pluie, elles sont un peu comme nous.
Donc vous n'êtes pas touché par la sécheresse, si je comprends bien.
Ah si, alors on fait du foin, mais le foin cette année, il y en a beaucoup moins cette année. Un peu comme aussi l'an dernier, ça avait baissé un peu. Là, on n'avait pas trop de foin, donc là, ça fait on cumule un petit peu les 3 ans là de suite de sécheresse.
On en parlait hier avec une hydrologue sur cette antenne qui disait que les agriculteurs comme vous allaient devoir s'adapter à des épisodes de plus en plus forts.
Oui. Et nous, les Vosges, en fait, c'est une montagne. Il n'y a pas trop de réserves d'eau, en fait, c'est des terres, c'est du granit, c'est des terres sableuses. Ce qui fait que dès qu'il fait un coup de sec, on n'est pas habitué, quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
Et vous, j'ai connu pour pleuvoir beaucoup.
Oui. Merci beaucoup, Bruno Lecomte, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Vous m'avez donné très faim avec vos fromages de chèvre. À très bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette. Mon cher Laurent Cabrol, est-ce que les températures vont encore augmenter aujourd'hui?
Elles vont augmenter. C'est curieux parce que le foin, chez moi cette année, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Vous voyez comme quoi dans le Tarn, dans le sud du Tarn, on est gâté et c'est l'inverse de ce que l'on vit dans les Vosges. Alors, les températures actuelles, 22 à Lyon et Paris. En ce moment, 21 à Tours, 20 à Toulouse et Cognac, 19 à Marseille, 18 à Rennes, 17 à Besançon, 16 à Caen et 14 à Nice. À Nancy. Vous voyez que les températures sont bien élevées, sont des températures fortes ce matin. Et dans la journée, nous aurons du 36 à Pithiviers, du 35 dans la capitale comme à Lyon, 34 à Nevers, 33 à Dijon, 31 à Nancy. Et puis un peu moins du côté de Nice, grâce au vent de la mer, 26 degrés. Et simplement, pour vous dire, on y reviendra tout à l'heure, que la tendance orageuse se manifestera beaucoup plus tôt que prévu sur le littoral atlantique, de sorte que la fraîcheur venue de l'ouest, eh bien cette fraîcheur nous sera salutaire. Et elle va arriver avec des orages que l'on détaillera dans une demi-heure.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Il est 5h30 sur Europe 1.
D'habitude, en plein mois de juillet, on est à 23 000 visiteurs. Je pense que pour le premier jour, on sera à 3 000, 4 000 visiteurs.
C'est le symbole de Paris, fermé depuis le 13 mars. La Tour Eiffel rouvre ce matin, mais il faudra un peu de volonté pour grimper les 674 marches à pied. Le professeur Raoult, entendu pendant 3 heures hier par la commission d'enquête de l'Assemblée sur la gestion du Covid, il s'est notamment vanté d'influencer certaines décisions d'Emmanuel Macron. Dans ce journal également, la production qui reprend sur les chapeaux de roue à l'usine PSA de Rennes. Et puis Paris, championne d'Europe du retour de la pollution de l'air. Aujourd'hui, circulation différenciée dans la capitale.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est tout un symbole. La Tour Eiffel, l'un des monuments les plus fréquentés au monde, 7 millions de visiteurs par an, rouvre ses portes ce matin à 10h.
Oui, mais pas tout à fait comme avant. Seulement jusqu'au deuxième étage et sans ascenseur. Jean-Jacques Herry est allé promener son micro devant la Dame de Fer avant ce grand moment.
Ça reste un symbole hein, pour le peu de touristes qui viendront ici.
Venus de Montpellier, Lucas et Chloé observent les ouvriers installer les barrières au pied de la Tour Eiffel sous un soleil de plomb. Très bientôt, les touristes y feront à nouveau la queue, pas eux. Leur méfiance est d'ordre sanitaire d'abord.
Est-ce que c'est vraiment une bonne idée par les temps qui courent?
Le corona, il n'est pas parti, il est toujours là.
Et puis il y a peut-être aussi un manque de confiance en leur capacité physique, car c'est à pied qu'il faudra monter au deuxième étage, 674 marches à gravir, les ascenseurs restant fermés jusqu'à mercredi prochain.
Bon courage pour les handicapés et les asthmatiques, mais après bon, au moins, ils prennent pas de risques en plus, quoi.
Sur le champ de Mars, on ne croise presque aucun touriste étranger. Louis Joubert, patron d'un kiosque vendant gâteaux et rafraîchissements, s'en désole.
On attend avec impatience l'ouverture de la Tour Eiffel. Les affaires sont très 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 dures, on ne fait même pas les frais du personnel.
Patrick Brancourt-Huiveau, directeur de la Tour Eiffel, s'attend à une reprise pourtant très lente. Il se base sur les réservations faites en ligne.
D'habitude, en plein mois de juillet, on est à 23 000 visiteurs. Je pense que pour le premier jour, on sera à 3 000, 4 000 visiteurs.
Et pour les rassurer, le port du masque sur le site est obligatoire. Des marquages au sol incitent à la distanciation. Et enfin, le nombre de visiteurs aux étages sera limité.
Et à 6h15, l'invité inattendu de Mathieu Béliard sera l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel.
Et puis autre réouverture demain, cette fois, celle de l'aéroport d'Orly. Premier vol à 6h pour le Portugal.
6 milliards pour augmenter les salaires des soignants, c'est l'annonce d'Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Annonce hier soir, l'enveloppe sera partagée entre hôpitaux et EHPAD publics, mais aussi en partie avec le secteur privé. L'augmentation générale des salaires sera effective au 1er juillet pour le million d'agents du secteur public.
Je ne suis pas un prophète, même si je suis barbu. Le professeur Raoult répondait hier aux députés qui l'interrogeaient sur l'avenir de l'épidémie de Covid.
3 heures d'audition pour le très médiatique médecin qui s'est notamment vanté d'avoir eu de bonnes intuitions et d'influencer Emmanuel Macron dans ses prises de décision, par exemple sur la reprise de l'école.
Il y a une non-réceptivité des enfants qui est quelque chose qui est unique dans toutes les infections respiratoires virales. Les enfants sont les plus touchés. Et dans celle-là, ce sont les moins touchés. C'est ce que j'avais dit au président. Je pense que ça a hâté sa décision de reprendre pour les écoles.
Le professeur Raoult devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Des déclarations qui ont quelque peu froissé l'entourage du président Jean-Rémy Bodo.
Il ne faut pas refaire l'histoire. Didier Raoult n'est pas le conseiller occulte du président. Les mots sont pesés, mais l'agacement palpable. Ce proche d'Emmanuel Macron goûte assez peu les déclarations du scientifique devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Non, il n'influence pas le président, selon lui. Sur les écoles, on le voit le 9 avril. On annonce leur réouverture le 13, mais ça faisait 10 jours qu'on travaillait dessus, justifie ce conseiller du chef de l'État. À l'Élysée, on répète que Raoult est un grand scientifique. On reconnaît que le Marseillais a eu de bonnes intuitions. Mais ça n'est pas Didier Raoult qui a toutes les bonnes idées, tempête ce membre du premier cercle. Le professeur Raoult, personnage emblématique de la crise du Covid. Mais Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'aller le voir à Marseille? Ne lui a-t-il pas donné trop de crédit? À cette question, la réponse est mesurée. Raoult est un phénomène social. Et ce conseiller de conclure, il dit quelque chose du pays. Il fallait le traiter ainsi.
Jean-Rémy Bodo.
Europe 1, il est 5h34.
On parle beaucoup de la crise économique. Selon les prévisions du FMI, la baisse du PIB en Europe est vertigineuse. Elle pourrait atteindre moins 12,5% cette année pour la France. Et pourtant, il y a aussi de bonnes nouvelles. Par exemple, à l'usine PSA de Rennes.
Un site qui fabrique des voitures très demandées. La Citroën C5 Aircross et la Peugeot 5008. Depuis le début de la semaine, tous les CDI ont repris le travail et ils seront rejoints par 400 intérimaires à la rentrée. De quoi donner du baume au cœur à la direction comme aux salariés. Reportage à Rennes de François Coulon.
Personne n'avait prévu ce redémarrage sur les chapeaux de roue. La C5 Aircross et la 5008 ont fait un tabac dans les concessions dès la fin du confinement. Résultat, les 1600 CDI ont retrouvé leur poste et 400 intérimaires compléteront l'effectif début septembre. Stéphane Gélas, directeur de l'usine.
Le déconfinement, au tout début, a été une reprise extraordinaire des ventes, pour laquelle nous pensions qu'un effet d'euphorie pouvait peut-être masquer une suite un peu plus douloureuse. Là, aujourd'hui, il y a assez de robustesse dans les hypothèses de volume à produire pour pouvoir remonter ces équipes.
Mohamed est opérateur taulier depuis 33 ans.
C'est un cadeau magnifique pour la région. On a la chance que ça repart plein pot. J'étais étonné parce que je me disais que bon, les gens, vu qu'ils n'ont pas travaillé, tout ça, ils n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter des voitures. Et puis apparemment, non. Ils veulent voyager, vu qu'ils sont restés enfermés, ils ont envie d'avoir une voiture et se promener. Ça fait du bien parce que ça nous permet de remplir le frigo et de ne pas s'inquiéter pour l'avenir.
Aucun cas de Covid ici pour le moment. La prise de température volontaire à l'entrée de l'usine et les masques, lunettes et gel portent leurs fruits. Rennes, François Coulon, Europe 1.
Le chômage partiel va rester généreux avec des aides de l'État qui ne baisseront pas avant octobre. Emmanuel Macron a présenté le dispositif aux partenaires sociaux. Au 1er juillet, les salariés seront indemnisés à 84% du salaire net, avec un reste à charge de 15% pour les entreprises et pour 2 ans maximum. Attention, trafic perturbé ce matin sur le RER B. Hier soir, un train vide a déraillé.
Et puis toujours en Île-de-France, revoici la circulation différenciée à cause du pic de pollution à l'ozone lié à la chaleur. Elle est instaurée à partir d'aujourd'hui.
Oui, seuls les véhicules munis d'une vignette critère 0, 1 ou 2 peuvent circuler dans la capitale et dans les départements de la Petite Couronne. Depuis le début du confinement, la pollution, elle grimpe en flèche dans cette capitale, Romane Auquet.
Paris, championne d'Europe du retour de la pollution de l'air. Si un rebond existe dans toutes les capitales européennes, une étude finlandaise conclut que c'est à Paris que la hausse est la plus spectaculaire. Le niveau de dioxyde d'azote, un gaz très toxique, a même doublé par rapport à la période du confinement, plus 118% dans notre capitale contre 88% à Bruxelles ou 73% à Milan. Pour comprendre cette envolée, Olivier Blond, président de l'association Respire, pointe une autre particularité française, notre amour pour les moteurs diesel.
Les gens
hésitent encore à reprendre les transports en commun et donc reprennent un peu plus la voiture qu'on aurait pu s'y attendre. Et en France, on a presque 70% des voitures qui fonctionnent avec des moteurs diesel et donc ça accroît les émissions de dioxyde d'azote. Et c'est pour ça que ce rebond est particulièrement fort.
Un rebond qui a une autre explication. Paris a été l'une des capitales à avoir le plus diminué son niveau de dioxyde d'azote pendant le confinement. La preuve, estime l'étude, que les mesures qui impactent le trafic routier sont les plus efficaces pour réduire les concentrations de polluants dans l'air.
Circulation différenciée donc dès maintenant et jusqu'à 20h ce soir, la vitesse autorisée sera également limitée.
Votre Fiat 500, c'est une critère combien, ma chère Omblin? Ma chère Hélène, c'est l'habitude.
Je me disais, pourquoi ils me regardent? Je crois.
Un? Vous êtes sûr?
Bah oui, bien sûr.
Bon, donc vous pourrez me ramener tout à l'heure.
Mais bien sûr, avec grand plaisir.
Merci beaucoup Hélène Zélani. On vous retrouve pour le journal des 7h.
Il est 5h38 sur Europe 1.
Les courses avec les pronostics du quintet Thierry Léger. On va où cet après-midi Thierry?
C'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que se disputera ce quintet réservé exclusivement à la jeune génération des poulains et pouliches âgés de 3 ans. Et parmi les 16 partants, j'ai choisi sans hésiter le numéro 8, The Goodman, probe en deuxième d'un quintet similaire le 31 mai à Deauville, à l'issue d'une fin de course remarquée, annonciatrice d'une victoire dès cet après-midi. On lui opposera le numéro 4, Sans les nuages, arrivé troisième en dernier lieu tout près de mon favori pour sa première tentative à ce niveau et qui peut être considéré ici comme un coup sûr absolu à l'arrivée. Ensuite, je vous recommande les numéros 14, Congastet, très endurci, 11, Lionel, sachant finir ses courses, et 6, Aarus, aux limites actuelles qui restent à déterminer. Enfin, les numéros 9, Milam, 13, Reventador et 16, Suave Story compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 4, 14, 11, 6, 9, 13 et 16.
Pronostic à retrouver sur notre site europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain.
Europe 1. Julien Pierce.
Le député La République En Marche, Loïc Dombreval, a remis cette semaine un rapport pour lutter contre les abandons d'animaux de compagnie. On en compte plus de 100 000 chaque année en France. C'est le record d'Europe. Pour parler de ce rapport, Julien, votre invité, Réa Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis.
Bonjour Réa Hutin.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Il y a exactement 121 propositions dans ce rapport. J'aimerais tout d'abord aborder avec vous celle visant à prévenir les achats d'animaux impulsifs. Le député Dombreval propose de rendre obligatoire une attestation de connaissance, un questionnaire qu'il faudrait remplir avant tout achat d'animal. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce sont des mesures que nous avons vues avec lui. Ça fait un an que ça se prépare. Il a repris un grand nombre de nos recommandations et je suis tout à fait réjouie de savoir qu'il a été sensible à ces recommandations. Maintenant, ce qu'il faut, c'est interdire déjà les ventes d'animaux dans des animaleries. Parce que c'est là où vraiment on utilise l'animal comme un objet de consommation, on attire le chaland, parfois on peut acheter ses chiots à crédit, donc c'est terrible parce qu'effectivement la personne achète sur un coup de tête, il n'y connaît rien, il n'y a aucun sens des responsabilités, donc c'est une bonne chose. Mais il faut aller au-delà, il faut interdire cette vente dans les animaleries, il faut aussi interdire toutes les petites annonces, ces sites de petites annonces, ces plateformes qui vous proposent des chiots à tel prix, et souvent on sait que c'est de là, ce sont des animaux qui arrivent d'importation, de trafic d'animaux venus d'usines à chiots dans les pays de l'Est, en Ukraine et autres, et on le sait très bien, donc là encore c'est la porte ouverte à l'abandon puisque ce sont des animaux qui ont été sevrés trop tôt, qui arrivent la moitié du temps malades, etc. Donc vous voyez la personne qui se fait avoir, qui se fait gruger sur un site, et bien quand il ne peut plus le garder, il se rend compte qu'il a des problèmes de comportement, de santé et autres, c'est évident qu'il l'abandonne.
L'interdiction de vendre des animaux en animalerie, dans les foires ou sur Internet, ça le député Dombreval le demande comme vous. J'aimerais revenir simplement sur ce questionnaire, cette attestation de connaissance. Est-ce que vous n'auriez pas préféré un permis de détention comme cela se fait en Belgique par exemple ?
Certainement. Et en Belgique, vous savez que l'animal est carrément sur votre carte d'identité. Attestation de connaissance, il suffit de regarder sur Internet et puis vous répondez aux questions. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise dans une attestation ? Oui, j'aime les chiens, j'aime les chats, etc. Donc, non, il faut en plus que la personne fasse une adoption responsable. Il y a des choses, des décisions qui se prennent en famille qui vont bien au-delà d'une attestation. C'est vraiment sensibiliser le public en disant qu'un animal, quand on l'adopte, on l'adopte pour la vie. Donc c'est bien, mais il faut aller plus loin.
Il est proposé de renforcer les peines encourues en cas de maltraitance. On passerait de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende contre 2 ans et 30 000 euros aujourd'hui. Ça aussi, ça va dans le bon sens ?
Bien sûr, mais il faut encore appliquer les peines. Vous savez qu'en 2016, la Fondation a réussi à ce que le code civil change, que l'on reconnaisse l'animal comme un être vivant et sensible. Depuis, les magistrats commencent à prendre ça en compte. Avant, il était considéré dans le fondement du droit français comme une chose. Et là, c'est très important. Et vraiment, il faut que les peines soient appliquées. Nous sommes, nous, Fondation, partie civile dans une centaine de cas par an. Maltraitance, c'est juste une contravention. C'est une contravention qui coûte encore moins cher qu'une voiture mal garée. Or, nous, on doit prouver qu'il y a eu un acte de barbarie. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile à prouver. Et donc, ces peines ne sont jamais appliquées. Donc, avant tout, c'est appliquer les peines et effectivement les augmenter. Parce que lorsqu'on vous vole quelque chose, c'est en effet 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour une chose.
Toutes ces propositions, elles sont plutôt ambitieuses. Est-ce que vous êtes confiante pour la suite ? Est-ce que le gouvernement, selon vous, va s'en saisir ?
Écoutez, espérons que la montagne ne va pas accoucher d'une souris, parce que les propositions sont formidables, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas vu un gouvernement qui soit très soucieux du bien-être animal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lobbies, il y a les lobbies des chasseurs qui ont les entrées un peu partout, etc. On commence une période électorale, donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on nous ait donner des preuves d'un quelconque intérêt pour le bien-être animal. Alors j'espère que grâce à M. Dombreval, avec cette commission qu'il a créée, ce serait formidable qu'on puisse l'écouter enfin. Mais justement, méfions-nous. Nous, on prend nos devants. Nous avons créé une pétition à l'attention du ministre de l'Agriculture avec hashtag non à l'abandon. Pour la première fois, vous allez pouvoir signer la pétition grâce à un hashtag. Et donc, effectivement, nous continuons à faire pression sur le gouvernement pour qu'on soit enfin entendu, parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, encore faut-il les appliquer. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique de changer les choses. Donc, on va bien voir, mais nous sommes vigilants. Et c'est vrai que l'opinion publique maintenant gronde grâce aux réseaux sociaux, grâce à tous ces sites. On le sait, les sévices ne peuvent plus passer inaperçus et non punis.
C'est désormais une vraie préoccupation des Français. Réa Hutin, cela fait maintenant de nombreuses années que vous menez ces combats. Vous avez, sans vouloir vous enfoncer, beaucoup d'expérience. Comment vous voyez la période estivale qui vient de débuter ? Est-ce que vous craignez qu'il y ait encore plus d'abandon que d'habitude avec la crise ?
Malheureusement, c'est un chiffre, c'est un drame chaque année renouvelé. Avec la crise, évidemment, les gens n'ont pas pu adopter, mais ils n'ont pas pu aller non plus dans les refuges pour abandonner leur animal. Je me dis, moi j'ai ce petit espoir en disant que ces 55 jours de confinement, tous ceux qui ont été avec leurs animaux, qui ont connu cette fidélité, cette proximité avec l'animal, je ne peux pas m'imaginer que demain ils vont aller l'abandonner en partant en vacances. Et justement, pour les aider, nous avons aussi un site, nosvacancesentreamis.com. Comme personne n'a pu vraiment préparer ses vacances ni faire garder leur animal au cas où ils devaient partir sans leur compagnon, eh bien, sur ce site, c'est un site 100% digital, interactif, où vraiment vous aurez par ces cartes interactives tous les lieux de villégiature qui vous acceptent avec leur animal. Vous avez de la géolocalisation, les plages, les gîtes, les hôtels, les pensions. Donc voilà, on est là pour aider les gens, parce que l'abandon ne doit pas être une solution. Donc espérons, c'est toujours cet espoir que nous avons chaque année.
Il y a des alternatives, évidemment. Merci beaucoup, Réa Hutin, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Merci.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, c'est la partition d'Omblin Rush, la chronique musicale de ce 5-6 au programme. Ce matin, Omblin, un phénomène de précocité.
Qui s'est révélé au monde en chantant les 3 premières lettres de l'alphabet.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le 5-6, Julien Pierce.
5h et presque 48 minutes, l'heure où Omblin Rush nous compte sa partition. Nous commémorons aujourd'hui, 25 juin, l'anniversaire de sa disparition. C'était en 2009. Michael Jackson avait 50 ans et il n'en a pas encore 10 quand il est reçu Omblin avec ses frères par le patron du label Motown à Détroit.
Et franchement, avant de passer la porte du bureau, ce n'était pas gagné, Julien. Berry Gordy ne croit pas au groupe d'enfants, c'est pas son truc. Il accepte néanmoins d'auditionner The Jackson 5. Il change immédiatement d'avis lorsqu'il entend Michael et ses frères chanter. Devant le potentiel du groupe, Berry Gordy ne peut que s'incliner.
Quelques mois plus tard, en 1969, la maison de disques Motown quitte Détroit et déménage à Hollywood. Toute la famille Jackson est du voyage et s'installe en Californie.
Ensuite, tout va très vite. The Jackson 5 signe leur premier contrat. Ils sont présentés à la presse avec comme marraine Diana Ross, la chanteuse emblématique du label.
Le premier album qui sort s'appelle d'ailleurs Diana Ross Presents The Jackson 5.
Ouais, Michael Jackson, 11 ans, avec sa voix de tête, sa voix d'enfant et son sens inné de la danse, confirme son statut de jeune prodige. Viennent ensuite le disque ABC en mai 1970. Puis le third album en septembre, The Jackson 5 devient un véritable phénomène.
En plus de battre des records de vente chez les disquaires, les Jackson 5 sont très demandés à la télé.
Leur prestation est appréciée grâce au jeu de scène des cinq frères, grâce au costume également, chemise à franges et chapeau de cow-boy.
Et il faut préciser que dans les coulisses, le père Joe Jackson veille au grain.
Oui, Joe Jackson, père et manager tyrannique et violent, prêt à dégainer le ceinturon si la mise en place sur scène n'est pas parfaite. Lui qui caressait l'idée de devenir guitariste professionnel, c'est par le biais de ses enfants qu'il accomplit son rêve. Rien que sur cette année 1970, la première de leur jeune carrière, le groupe vend 14 millions de disques, une vraie poule aux œufs d'or.
Commence sur le même tempo.
Un dessin animé baptisé The Jackson 5 apparaît à la télévision, une émission spéciale leur est consacrée. Et pendant l'été, les frères entament une tournée de 40 dates.
Et summum de la consécration, Michael Jackson s'affiche en une du magazine Rolling Stone.
Avec le titre « Pourquoi ce gamin de 11 ans reste debout après l'heure de se coucher ?» Un gamin comme ses frères aussi talentueux, travailleurs que photogéniques. Tous les cinq font la fortune du label Motown. Ils seront à l'origine de sa perte quand ils claqueront la porte. Le patron Berry Gordy aura laissé s'échapper celui qui deviendra le maître incontesté de la pop, souverain de la musique moderne et le plus gros vendeur de disques encore aujourd'hui. The Jackson 5 avec I Want You Back, le premier carton d'une série de numéros 1 successifs. Les frères Jackson deviennent dès lors, dès 1970, très célèbres, très vite. Une popularité qui, pour Michael Jackson, ne cessera jamais. Il nous a quittés il y a 11 ans aujourd'hui.
C'était la partition d'Omblin Jackson Rush. Merci beaucoup, Omblin.
Merci.
Bonjour Christophe Ondelat.
Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez trouver une histoire de fou dans votre application de podcast. Ça y est, elle est disponible. L'histoire d'une femme qui donne un cadavre à dévorer à ses cochons. Et ça n'est pas une histoire du Moyen-Âge. Hein. C'est une affaire de 2003, l'affaire Altobella Capellieri. Il n'y a plus d'heure pour écouter On de la Traconte.
Quel accent italien. Merci Christophe, On de la Traconte. Disponible donc dès maintenant sur votre application de podcast et toujours à partir de 14h sur l'antenne d'Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, votre matinale se poursuit avec Mathieu Béliard, s'il daigne entrer un jour dans ce studio. Ah ça y est, il arrive. A tout de suite sur Europe 1.
Bientôt 5h56 et la matinale d'Europe 1 se poursuit avec Julien Pierce et Mathieu Béliard.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Au revoir Philippe. Ah ben non, vous non,
mais pour
du
ceux
coup.
Qui disent attendez, les médias, on arrive, on s'assied devant le micro. Non, mais voyez, il est pas 6h du matin, Philippe Vandel, il prépare Culture Média.
Exactement, j'étais là à 5h30, mais vous étiez pas là, vous.
Il était là. Philippe Vandel, que vous retrouvez à 9h, ouais. Culture Média.
Exactement, avec Marie-Sophie Lacaro et Élise Moon.
Voilà, comme ça, si on a la bourre à la fin de Canteloup, on aura fait le teasing de Philippe
Vandel. Mince alors,
je regarde Nicolas Baudin, notre réalisateur, qui me dit super avec des pouces.
C'est
non,
pas
ça
la même audio.
Comme ça. Ce sera, on vous retrouve juste
allez,
avant d'aller. Bonne
émission.
Pas merci. Tout à l'heure. Julien Omblin, merci d'avoir réveillé nos auditeurs depuis tôt ce matin.
À demain.
Depuis 5h. À demain, oui, à demain, vous serez là, mais vous avez encore un peu de travail hors antenne. Il faut saluer le travail de l'ombre aussi. Il n'y a pas que quand on est au micro qu'on brille, tout ça. Merci Julien. Belle journée à vous.